La rencontre spirituelle aujourd'hui sera question de saint Augustin. C'est vraiment l'un des plus grands saints de toute l'histoire de l'Église. Un homme qui a tant écrit, tant prêché, tant fait, lui qui pourtant s'est fait baptiser sur le tard, qui a eu un enfant, il s'est fait baptiser d'ailleurs en même temps que son fils, Adéoda. Et c'est une vie étonnante, une vie merveilleuse, remplie de grandes qualités. C'était un berbère, hein? Vous savez, les berbères habitent l'Algérie, hein? C'est donc un Algérien dans un sens. Il était berbère par sa mère, ça c'est sûr. Il est mort en l'an 430 à 75 ans. Il est devenu évêque en Algérie. Et c'est un des plus grands docteurs de l'Église. Je m'inspire d'un texte d'André Mandouze qui est paru dans cette magnifique collection de 8 saints qu'on appelle l'Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, paru chez Hachette, en 11 volumes, assez considérables et magnifiquement illustrés, que je ne saurais trop vous recommander, qui sont distribués par Anne Sigier. C'est en soi un monument que Saint-Augustin, et surtout un monument de l'Église et de son histoire. C'est spécialement un théologien cultivé, qui a aidé la culture occidentale considérablement, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Et même, je dirais, la culture universelle. Il a des dimensions exceptionnelles, ce saint. Ça fait que, selon les moments, on s'est posé la question de savoir si saint Augustin était le dernier génie du monde antique et le premier homme du Moyen-Âge, ou même, on a dit souvent qu'il était le précurseur des temps modernes. On pourrait dire qu'il était le précurseur du futur millénaire qui n'est venu que plus de 500 ans plus tard et qui s'achève. Ce qui, en tout cas, est certain, c'est que dans la mesure où chacun des 16 siècles qui ont suivi a pris dans son œuvre immense ce qui lui convenait plus spécialement, on se trouve aujourd'hui en présence d'une longue série d'idées qui viennent de différents courants de ce qu'on appelle l'augustinisme, des courants contradictoires qui sont pratiquement autant de mutilations de la pensée de saint Augustin. Il faudrait jamais oublier que ce monument qu'est saint Augustin a d'abord été un homme. Oui, un homme parmi les plus vivants de son temps. Depuis toujours, je dirais. Un homme dont on va le voir, la plénitude de vie a été exceptionnelle, absolument exceptionnelle. Je n'exagère rien, je vous assure. Il faudrait rééquilibrer l'image de saint Augustin, docteur de l'Église. Il a beau être, en effet, un des quatre grands docteurs de l'Église occidentale. C'est le réduire que de le présenter comme s'il n'était que ça. Un maître, alors qu'il s'est voulu avant tout, quoi? Celui qui a été au service des hommes. Quel évêque humble et pauvre et généreux, quel théologien admirable. Il n'a reconnu qu'un seul maître, c'est le maître du monde, c'est Dieu. Il faut quand même pas non plus s'imaginer que saint Augustin était un ancien dévoyé de grande envergure, là, qui, au moment de son adolescence et de sa jeunesse, s'est répandu dans les lits de nombreuses femmes, pas du tout. Sa conversion a fait que plusieurs de nos spécialistes, petits spécialistes sur saint Augustin, qui étaient en mal de, disons, de romans ou d'histoires d'amour, et qui sont parfois aussi des petits psychanalyste primaire, ils ravalent la théologie de saint Augustin à des espèces de blocages psychologiques, à des pulsions de jeunesse. C'est pas ça du tout. Le grand malheur de ces interprétations pleines de parti pris, et donc absolument erronées, vient de ce que les auteurs de ces interprétations ont en général négligé de lire vraiment saint Augustin dans le texte, là. Et ils se sont contentés d'extraits insignifiants. Il y en a beaucoup qui s'en tiennent, en particulier le pseudo-biographe, à la seule lecture des Confessions, le fameux livre Les Confessions de Saint-Augustin, qui est encore un best-seller après 1600 ans, c'est incroyable. Un best-seller de la littérature universelle, ça se vend toujours. On a eu tort de prendre ça pour une simple autobiographie. Il s'agit de tout autre chose. De toute façon, les Confessions de Saint-Augustin ne recoupent que les années d'avant la conversion, c'est-à-dire la moitié d'une vie, dont la seconde partie va être entièrement dévorée par le zèle d'un évêque d'une ville de l'Afrique du Nord, l'Afrique romaine, d'où il rayonnait sur l'ensemble de l'Église à la fois catholique et orthodoxe, à la fois qui était unie. Ce n'est que beaucoup plus tard que, malheureusement, nous nous séparons, en 1054. J'aimerais qu'on aborde ce monument, comme je l'ai appelé, mais aussi l'homme. On peut aborder le maître, mais aussi le serviteur. Le pasteur, l'évêque, mais aussi le pécheur, sans parler de tout ce qu'Augustin est encore. Il est un moine. Il est un polémiste. Il est un interprète du droit et même un juge reconnu par le pouvoir civil. C'était le privilège des évêques à l'époque. C'est un philosophe post-platonicien, d'après Platon, qui s'est inspiré de ses écrits grecs. C'est aussi un spécialiste de la Bible, un exégète. C'est un écrivain, un bon écrivain, c'est un artiste, disons, de l'écriture, un virtuose de la parole aussi. Quand il prêchait, les gens écoutaient, étaient passionnés. Alors, c'est une tentative un peu exagérée peut-être, d'essayer de voir comment une certaine forme de sainteté relie les uns aux autres là les aspects de sa vie et de son œuvre. C'est un risque, mais on peut le tenter brièvement avec l'aide d'André Mandouze. Comme la plupart des chrétiens de l'Afrique ancienne, l'Afrique du Nord, là, Augustin est dépourvu de ses trois noms, prénoms, noms et surnoms, dont sont pourvus à Rome les descendants des grandes familles puis les personnages à la carrière chargée de distinction. Au Québec, nous avions souvent des prénoms, des noms et des surnoms. Mon nom, Champagne, est un surnom. Ça arrive souvent dans les familles et la plupart des familles ont laissé tomber le surnom il y a peut-être 75-100 ans. Le nom de sa mère, Monica, est sans aucun doute de souche berbère, si on est sûr de ça. Il est né le 13 novembre 354. Le jeune Augustin était un bon élève, était bien doué, à Tagaste, en Algérie d'aujourd'hui. Ça a changé de nom. Un jour, ou plutôt une nuit, il est allé avec ses camarades, avec une petite gang d'amis, comme on dit, pour le plaisir, là. Et le déplaisir du voisin, il est allé voler de mauvaises poires. Or, ce futur grand saint est tout simplement de son âge, quoi. C'est tout. Faut pas s'en scandaliser. Au milieu des garçons de son âge, s'il éprouve quelque honte, c'est, confie-t-il, mon infériorité sur le chapitre de la honte. Il n'avait pas tellement honte, quand il était jeune, d'avoir fait ça. Autant dire qu'il n'est pas un des plus délurés sur le plan de la conscience. Il n'est pas catholique, Il est un païen à ce moment-là. Sa mère est catholique. On voit d'autre part Augustin qui résiste à l'entreprise, justement, de sa mère, Sainte Monique, qui est une chrétienne fervente. Qu'il a tout jeune inscrit sur le registre des catéchumènes qui sont supposés se préparer au baptême. Il va se faire baptiser sur le tard. Sainte Monique n'a pourtant pas dit son dernier mot. Et voilà donc notre Augustin qui, vers l'âge de 17 ans, entreprend des études supérieures de rhétorique dans la capitale nord-africaine de Carthage. Il a raconté ça. Il écrit... Saint-Augustin, j'arrivais à Carthage et dans un grand tapage, partout autour de moi flambaient des amours honteuses. Je n'aimais pas encore, mais j'aimais à aimer. C'est tellement répandu aujourd'hui. Je cherchais quel objet, quelle femme, donc, donner à mon amour. C'est à aimer que j'aimais. Et je haïssais la vie tranquille, car ma faim avait beau être intérieure et venir de la privation d'une nourriture intérieure, de toi-même, mon Dieu. Ce n'est pas de cette faim que je me sentais affamé, mais j'étais sans appétit de nourriture incorruptible. Non que j'en fusse rassasié, mais parce que plus j'en étais sevré, plus j'en étais dégoûté. Aimer et être aimé m'était bien plus doux, si je pouvais jouir aussi du corps de qui faisait l'amour. Ainsi donc, la raison profonde qui fait qu'on aime était en moi souillée par les ordures de la concupiscence. Et pourtant, hideux et sans honneur, je prétendais, dans l'excès de ma vanité, incarner les manières recherchées et le bon ton. J'en suis venu à me ruer dans l'amour où je désirais me faire prendre. Je fus aimé, et j'aboutis, sans m'en apercevoir, aux chaînes de la jouissance. Et je m'embarrassais avec joie dans tout un réseau de misères pour tomber finalement sous le coup de ces instruments de torture brûlants que sont la jalousie, les soupçons, les craintes, les colères et les querelles. Je vous ai dit qu'il a eu un fils de cette liaison qui était en fait un mariage. Alors, à Carthage, donc, Augustin a aimé d'amour. Il a aimé charnellement. Ce qui ne veut pas dire qu'on l'a, comme on l'a trop souvent écrit, qu'il a sombré dans la débauche. Ce qui est vrai, c'est que très vite, cet étudiant travailleur est entré en ménage et qu'il a eu à 18-19 ans un fils d'une femme dont nous ignorons le nom. Elle a été réellement sa femme, même si l'inégalité sociale a fait qu'elle ne pouvait être reconnue par la législation, la loi romaine, comme une épouse. Curieux, hein? Et si d'un point de vue humain, quelque chose reste pour nous plus qu'incompréhensible, ce n'est pas que saint Augustin ait tant aimé cette femme, mais c'est qu'il ait fini par céder à sa mère Monique, sainte Monique, et par s'est séparé de cette femme. Car cette fois, sainte Monique a gagné. Quand elle a eu, disons, bien bourgeoisement représenté à son fils, et les textes des confessions sont là, incontournables, j'invente rien, elle a dit à son fils que poursuivre dans la voie de cet amour non reconnu par la société romaine, c'était à tout jamais compromettre une carrière qui commençait bien, vers la fortune et les honneurs. En fait, dans le même temps qu'Augustin devient un homme, il acquiert les bases de ce qui, finalement, ne sera pas une carrière de haut fonctionnaire, mais ce sera celle d'un grand intellectuel. D'abord dans le monde, puis dans l'Église, comme évêque et théologien, etc. Bon. En même temps que l'expérience de l'amour, il y a l'approche de la sagesse. Il y a 19 ans, Augustin lit L'Hortensius de Cicéron, il en est bouleversé, et même s'il appartient plus ou moins à l'Église de sa mère, l'Église catholique, il n'y appartient pas vraiment. Il a trop souvent entendu sa mère parler du Christ pour n'être pas déçu. Que le nom de Jésus, et pour cause, soit absent de ce traité de Cicéron, et c'est une nouvelle expérience qui en découle, et finalement, nouvelle déception, il écrit « Je résolus donc d'appliquer mon esprit à l'étude des Saintes Écritures » pour voir ce qu'elles étaient, et du coup, voilà ce jeune Augustin qui aspire à la sagesse. Il est précipité dans une nouvelle expérience, et là, il rencontre Jésus-Christ petit à petit. Je vous ai dit qu'il rencontre le Christ petit à petit, parce qu'il n'est pas satisfait de la lecture de Cicéron. Il aspire à la sagesse. Et en lisant les Écritures chrétiennes, il se met à réfléchir à tout ça, puis il rentre dans une certaine religion où le Christ est présent, mais ce n'est pas selon les normes catholiques. Il entre dans une grande secte. Et pendant 9 ans, Augustin va être manichéen. C'est une secte qui enseigne Il y a deux principes, en somme deux dieux, l'un du bien et l'autre du mal. Je n'insiste pas, c'est trop compliqué. Alors, il n'y a pas moyen ici de rendre compte en détail de toutes les contradictions de la vie et de l'esprit de Saint-Augustin au cours de cette longue période qui précède et prépare la conversion finale. Augustin est devenu professeur, donc, à 19 ans. Il enseigne la rhétorique. Son premier ouvrage, qui est aujourd'hui perdu, porte sur l'esthétique, c'est-à-dire la beauté, hein, l'absolu dans la beauté. Et il a senti grandir en lui des doutes de plus en plus graves à l'égard de Mani, qui est l'initiateur du manichéisme, et de tous ses membres qui participent à cette secte. Tout l'espoir qu'il avait mis dans une rencontre avec un évêque réputé de la secte, l'évêque Faustus, s'est transformé en une déception absolument terrible. Alors ça va le mettre sur la bonne voie, il part pour l'Italie. Et ce séjour en Italie, durant 5 ans, va commencer, va finir par Rome, mais c'est à Milan, entre l'automne 384 à 29 ans, et Pâques 387, alors qu'il sera baptisé à 32-33 ans, que va se jouer sa vie. Car c'est là que, après avoir touché au vertige des succès passagers, il devient populaire, il est touché par la parole de Saint Ambroise. Quand un saint parle, il touche. Quand on écoute des saints parler, aujourd'hui, il y en a qui... quand on entend le pape ou Jean Vanier ou Mère Teresa ou d'autres, c'est saisissant. Parce que Saint Ambroise est devenu évêque de Milan, après avoir exercé le pouvoir de gouverneur, imaginez. Et c'est encore à Milan, donc, que l'influence dominante du manichéisme est définitivement mise en échec dans l'esprit d'Augustin. C'est fini pour le manichéisme. Pour ce qui est de l'importance de cette transformation, le témoignage d'Augustin, c'est capital, car il nous raconte bien les rapports subtils et nécessaires, à condition qu'ils soient bien ordonnés, entre la philosophie vraie et la religion vraie. Je vous lis pas des textes trop difficiles, j'en prends un qui se lit bien à la radio. Il a fallu bien des siècles, écrit saint Augustin, et bien des discussions, pour que parvienne cependant à se décanter ce que je considère comme la seule doctrine philosophique parfaitement vraie. Car cette philosophie chrétienne n'est pas celle de ce monde, que nos mystères abominent à très juste titre, mais celle d'un autre monde, le monde intelligible auquel les plus grandes subtilités de la raison humaine ne pourraient ramener les âmes aveuglées par les ténèbres de l'erreur et enfouies sous l'énorme amas de souillures corporelles. C'est le Dieu souverain qui a cédé. Bon, il résume le drame de notre rédemption par Jésus-Christ de façon magnifique. C'est le Dieu souverain qui a cédé à un mouvement de clémence envers son peuple. L'autorité prédominante de l'intelligence divine s'est inclinée jusqu'à se soumettre au corps humain lui-même en Jésus-Christ, de telle sorte que sous l'impulsion de ses préceptes, mais aussi de ses œuvres, les âmes soient en mesure de rentrer en elles-mêmes. C'est nous, ça. Et elles peuvent même, sans débat contradictoire, retrouver le goût de la patrie. La patrie, le royaume de Dieu intérieur, au creux de nos âmes, le ciel. Alors, Dieu merci, donc, la lecture des auteurs grecs platoniciens ne s'est pas présentée pour Saint-Augustin trop tôt ou trop tard, mais juste au moment où, averti par ses livres de revenir à lui-même, il s'est trouvé enfin capable, quoi, d'entrer dans l'intimité de son être sous la conduite du Dieu incarné Jésus. Ça lui ouvre enfin la compréhension de la Bible. C'est alors surtout la lecture directe de saint Paul. Et c'est la fameuse scène du jardin de Milan. Vous devez connaître ça, hein? C'est si beau. Je laisse de côté les interminables discussions qui ont eu lieu autrefois pour savoir comment saint Augustin a pu être amené plus ou moins inconsciemment à transformer, en lui donnant un tour littéraire, le souvenir de la scène du jardin dont il est question. L'essentiel est en fait ailleurs. Si d'abord on veut bien remarquer que Augustin n'a jamais adoré aucun dieu du panthéon païen, sa conversion ne peut pas avoir le sens banal qu'on donne trop souvent à ce mot. Qu'est-ce que c'est que la conversion de saint Augustin? Mais ce n'est pas non plus une simple conversion à partir du manichéisme, puisque, comme je vous l'ai dit, il est déçu par Manie. C'est bien plutôt, comme il le confesse lui-même, il le dit, par un scepticisme radical qu'il est tenté, c'est-à-dire l'agnosticisme, si on veut, tout en restant inscrit sur le registre des catéchumènes catholiques où sa mère l'a inscrit, là. Il est, disons donc, un agnostique, un sceptique, se convertit. Mais surtout, de très nombreux textes de saint Augustin sont révélateurs, hein, et soulignent qu'il n'y a pas de conversion sans un mouvement qui fait que, au fond de nous-mêmes, on se détourne de pour se tourner vers Dieu. Dans ce sens-là, pour ce qui est du texte même de la scène du jardin, la véritable clé en est donnée par saint Augustin dans les lignes qui suivent. Un texte classique, je vous le lis rapidement. Nous sommes au mois d'août, 386, il a 32 ans. Notre logis avait un petit jardin, je m'y retirais. Alypius me suivait pas à pas. Nous sommes assis le plus loin possible de la maison. J'étais tout frémissant, l'esprit bouleversé par une extrême indignation. Cette vague d'indignation venait de ce que je ne me rendais pas à l'alliance que tu voulais me voir décider avec toi, ô mon Dieu. Pris dans le remous de mes hésitations, j'en suis venu à faire toutes sortes de contorsions. Je m'arrachais les cheveux, me frappais le front, et dans mes doigts crispés, j'ai serré mes genoux. Ainsi j'étais malade et j'étais à la torture. Je m'accusais moi-même avec plus d'aigreur que jamais, en me tournant et en me retournant dans mes chaînes. J'attendais de les voir se rompre définitivement, ces chaînes. Elles ne me retenaient plus qu'à peine, d'ailleurs. Mais elles me retenaient pourtant. Au-dedans de moi, je me disais en effet, « Voici le moment d'en finir. Voici le moment de dire oui. » Et en même temps que je formulais la chose, j'allais vers la décision. Déjà, j'étais au bord de l'acte, mais l'acte ne venait pas, je ne parvenais pas à dire oui. Je ne retombais pourtant pas dans les abîmes passés. Restant sur le bord, j'étais là immobile et je reprenais haleine. Et à nouveau, je faisais une tentative. Il s'en fallait de presque rien ou de rien. Je touchais au but. Je le tenais, mais non. Je n'y étais pas. Je n'y touchais pas, hésitant à mourir à la mort, hésitant à vivre à la vie. Puis, plus l'instant approchait, plus il me frappait d'épouvante. Non, il ne me faisait pas reculer, il ne me faisait pas faire un détour, mais il me laissait en suspens. Tel était mon état. Et mon ami Alypius s'en est aperçu. Car à ce que je pense, je ne sais quelle parole avait dû m'échapper, où transparaissait un ton de voix déjà gros de larmes. C'est alors que je me suis levé. Alypius, lui, est demeuré à la place où nous étions assis. Il était au comble de la stupeur. Pour moi, je suis allé m'étendre, je ne sais trop comment, sous un figuier, et je donnais libre cours à mes larmes. Et si c'est longuement, et non pas en ces termes, c'est du moins en ce sens que j'ai parlé. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, seras-tu irrité jusqu'à la fin? Ne garde pas le souvenir de nos iniquités. Car je sentais qu'elle me retenait encore et je poussais mes cris appelant la pitié. Encore combien de temps, combien de temps? Sera-ce demain et encore demain? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi ne pas en finir tout de suite avec ma honte? Et voilà ce que je disais, je pleurais dans la douleur de mon cœur broyé. Et voici que j'entends une voix venue de la maison voisine. Sur un air de chanson, cela disait à maintes fois, répété à la façon d'un garçon ou d'une fille, mais sans que je puisse le dire au juste, « Prends et lis. Prends et lis. » Et aussitôt, changeant d'allure, je me mis à concentrer mon attention pour essayer de me rappeler si semblable refrain était en usage dans quelques jeux d'enfants. Il ne me revenait aucunement d'avoir, en quelque endroit entendu, rien de tel. Réprimant la violence de mes larmes, je me suis levé. La seule interprétation que j'entrevoyais de cet ordre divin, c'est qu'il m'était enjoint d'ouvrir le livre, la Bible, et de lire le premier chapitre sur lequel je tomberais. Et là, je me hâtai donc de revenir à l'endroit où Alypius était resté assis, car lorsque je m'étais levé, j'y avais laissé le livre de l'apôtre. Je saisis le livre, je l'ouvris, et je lus tout bas le premier chapitre sur lequel mes yeux sont tombés. « Gardez-vous de festoyer et de boire. Gardez-vous des coucheries et des débauches. Gardez-vous des querelles et des jalousies. Revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ, et ne vous faites pas pourvoyeur de la chair dans ses convoitises. » Je ne voulus plus pas en lire davantage. Je n'en avais plus besoin. Ce verset à peine achevé, il se répandit dans mon cœur comme une lumière apaisante, et toutes les ténèbres de mon doute se dissipèrent. C'est maintenant donc pour saint Augustin le parti pris de la sainteté. Saint Ambroise va le baptiser quelques mois plus tard à Pâques 487 avec son fils Adéoda, qui mourra pas beaucoup plus tard. Il a ensuite une extase à Ostie, O-S-T-I-E, près de Rome, avec sa mère, avant qu'elle ne meure, Sainte Monique. À la même époque, l'église catholique d'Hippone, en Algérie, était entre les mains du Saint-Évêque Valérius, et avec beaucoup de conviction, entreprend un jour le peuple chrétien sur la nécessité impérieuse qui se fait sentir pour l'église locale de pourvoir à l'ordination d'un prêtre. Or, les catholiques connaissent la règle que s'était faite Augustin et la doctrine qui était la sienne depuis sa conversion. Ils s'emparent de lui. Ils profitent du fait qu'il se trouve là bien tranquillement au milieu de la foule sans se douter de ce qui va se produire. Car ainsi qu'il le disait, s'y étant laïque, il s'abstient par principe de paraître dans certaines églises, c'est essentiellement dans celles où se trouve aucun évêque. Il a peur de devenir évêque. Il s'assure de sa personne. Ces gens-là, ils le prennent, ils s'en emparent. Et comme c'est la coutume en pareil cas, ils amènent Augustin à l'évêque pour qu'il leur donne prêtre. Tous demandent que la chose s'accomplisse tout de suite. Unanime est l'accord. Unanime leur désir. Leur ardeur est intense et leurs cris pour le réclamer retentissent sans cesse. Mais lui, il verse d'abondantes larmes. Il s'en trouve certain, ainsi qu'il nous le rapporte lui-même, pour se méprendre sur le sens de ses larmes. Il les interprète comme le signe d'orgueil. Et il lui dit, en guise de consolation, que même s'il mérite mieux que le titre de simple prêtre, celui-ci, quand même, le rapproche de l'épiscopat. Il dit ça pour le consoler, comme s'il était orgueilleux. Mais à ce qu'il nous rapporte, cet homme de Dieu qu'est saint Augustin obéit alors à des considérations autrement plus élevées. Et s'il gémit, c'est qu'il pressent la multiplicité et l'immensité des périls qui va faire peser sur sa vie la direction et le gouvernement d'une église. Et voilà donc la perspective qui lui fait verser des larmes. C'est les fidèles qui obtiennent ce qu'ils veulent. Ils voient leur désir accompli. Il est ordonné prêtre. En fait, saint Augustin ne se résigne jamais à sacrifier entièrement à l'État devenu le sien, l'idéal de perfection auquel il s'était identifié, il se veut moine. Pour sa conversion, c'est l'idée d'être moine. Mon idée, c'est ce qu'il déclare dans le sermon 355, était de vivre dans un monastère avec des frères. Ayant appris mon désir et mon projet, l'évêque d'Hippone, là, qui l'a ordonné, le vieux Valérius, m'a donné le jardin dans lequel est actuellement le monastère. J'ai commencé à réunir des hommes semblables à moi qui n'avaient rien, comme je n'avais rien. Moi, j'avais vendu ma pauvre parcelle de misère et j'en avais distribué le prix aux pauvres. Ceux qui voulaient partager mon sort devaient faire de même. C'était là la condition de la vie en commun. Et ce qui nous était en commun, c'était un domaine immense et infiniment riche. Qu'est-ce que c'était ce domaine? Dieu lui-même. C'est ce qu'il écrit. Même après avoir été appelé à être évêque ou adjuteur, puis à succéder à Valérius, donc comme évêque d'Hippone, après avoir été son prêtre, saint Augustin n'en démordra pas. Hein. Il va s'entêter à tenir les deux bouts d'une même chaîne, et alors devenu prêtre, puis évêque, malgré tout, il restera moine. Malgré tout, puis il va engager les prêtres à être moines aussi avec lui. Moine malgré tout, ce sera pas facile. Des travaux ont été faits pour essayer de démêler ce qui s'est passé, les divers états de ce qu'on appelle la règle de Saint-Augustin. Il y a peu de gens, en somme, qui imaginent l'importance qu'a eu et qu'a encore cette règle qu'il a écrite, parce qu'on ignore trop souvent que cette règle est celle à laquelle se conforme encore aujourd'hui, en cette fin du XXe siècle, en cette fin de millénaire, après plus de 1500 ans, un très grand nombre d'ordres religieux, de congrégations religieuses, a commencé par le grand ordre des dominicains. Mais revenons à l'époque d'Augustin et à Augustin lui-même. La règle qu'il a mise au point avec son ami Alypius est en fait beaucoup plus importante dans son esprit que dans sa lettre. La preuve, c'est avant tout un esprit. Se manifeste dans le fait qu'à Hippone même, écoutez bien ça, elle a inspiré deux institutions parallèles après qu'Augustin soit devenu évêque. D'abord, il y a le monastérium. Qu'est-ce que c'est? Il l'avait fondé, ça étant prêtre, monastère, et qui va devenir une pépinière de futurs évêques. D'autre part, il y a l'épiscopium, c'est-à-dire une congrégation de clercs, de prêtres, comme on en a beaucoup, des congrégations, qui, autour de l'évêque, animent la communauté des fidèles, mais en suivant aussi, comme Augustin, la règle monastique, ils ne se marient pas. Ils sont pauvres, ils sont obéissants. Il faut ajouter que ce rayonnement de la règle déborde largement la ville d'Hippone. En tout cas, en Afrique, Augustin n'a pas été le seul moine évêque. Il a engendré par sa règle, la règle de Saint-Augustin comme on l'appelle, et par son exemple, toute une lignée d'évêques moines. Il y en a qui disent qu'ils étaient au nombre de plus de 400, qui ont disparu avec leurs fidèles, leurs églises, leurs monastères, leurs bibliothèques, etc., petit à petit, surtout sous la conquête des musulmans venus de l'Est de l'Arabie. Et ces pays-là sont devenus musulmans. Et nous avons perdu tout ça. Il ne faudrait quand même pas idéaliser les hommes, car les hommes restent les hommes. Augustin n'était pas de ceux qui transigent avec la règle. Il y a eu de la misère avec ses moines. Prononcé seulement quelques années après sa mort, les sermons 355 et 356 nous prouvent que la communauté ecclésiale tout entière a pu être témoin de graves manquements à la règle, en particulier pour ce qui est du vœu de pauvreté. Ce pauvre Augustin, puisqu'on a voulu faire de lui un évêque, il considère qu'au moins ses pouvoirs d'évêque doivent lui permettre d'aller, avec les clercs, là, dont il a la charge, jusqu'au bout de son idéal de moine, qui suit l'Évangile de très près. Et s'il pense qu'il ne faut plus transiger, c'est justement parce que le monachisme n'est pas à l'abri des contrefaçons, et qu'il n'est rien de pire qu'un mauvais moine, il n'est rien de pire qu'un mauvais moine. Il écrit, ça s'applique à des congrégations où il y a des religieux aujourd'hui qui ont des splendides appartements, des voitures de luxe et toutes sortes de choses. C'est difficile à accepter aujourd'hui. Moi, j'en parle parce que ça me chagrine. Je lis donc le texte d'Augustin qui pourrait s'adresser à eux. Voici maintenant ce que je déclare. Vous entendez, vous aussi bien qu'eux. Si jamais il en est un qui veut avoir quelque chose en propre, vivre de son bien propre, aller à l'encontre des préceptes qui sont nôtres, c'est trop peu de dire qu'il ne demeurera pas avec moi, j'ajoute qu'il ne fera plus partie du clergé. J'avais dit en effet, et je sais avoir dit que, si certains ne voulaient plus continuer d'assumer notre vie communautaire, je ne leur enlèverais pas leur fonction dans le clergé, mais qu'ils demeureraient à part, vivraient à part, et consacreraient leur vie à Dieu comme ils l'entendraient. Cependant, je n'ai pas caché à leurs yeux, dit saint Augustin, le mal qu'il y a à manquer à son engagement. Il n'empêche que mon choix m'avait porté à aimer mieux avoir avec moi des boiteux que pleurer des morts. Car qui est hypocrite est un mort, affirme saint Augustin. Or donc, aussi vrai que quiconque aurait voulu vivre au dehors et vivre de son bien n'aurait pas été rayé par moi des effectifs du clergé, de la même manière, maintenant que par la grâce de Dieu ils ont tous choisi la vie communautaire, je déclare que, s'il s'en trouve un qui conserve quelque chose en propre, je ne lui permets point d'en disposer désormais par testament, mais je l'effacerai du registre des clercs. Qu'il en appelle contre moi à 1000 conciles, qu'il s'embarque pour où il voudra, afin d'aller se plaindre de moi, Dieu m'aidera à ce que là où moi je suis évêque, lui ne puisse être clair. Vous avez entendu? Vous aussi bien que? Alors, c'est comme ça. C'est le sermon 356. Il était évêque d'Hippone, qui s'appelle aujourd'hui Annaba, en Algérie. On sait que saint Augustin a éclaté en sanglots quand il a été traîné au pied de Valérius pour être ordonné prêtre. C'est parce qu'il savait que, à l'opposé de ce qu'il avait rêvé, la fonction sacerdotale instaure une dépendance de tous les instants. Devenu à son tour évêque, il se contentera, pour assumer les charges pratiques, il ne se contentera pas d'assumer les charges pratiques, il y va aller beaucoup plus loin. Aux tentations qu'il va déceler chez certains de ses collègues dans l'épiscopat, il déclare en particulier dans un passage très connu de La Cité de Dieu, car il est l'auteur de cet ouvrage fantastique La Cité de Dieu, au chapitre 19, « Le mot épiscopat désigne un labeur et non un honneur. » Il ajoute « Ne doit pas s'imaginer être évêque qui aime être supérieur et non serviteur. » C'est pourquoi le pape le sait. Il s'appelle le serviteur des serviteurs de Dieu. Et faisant allusion dans le sermon 146 à la place de la cathèdre, l'espèce de trône ou le siège épiscopal dans l'abside de l'église, au fond de l'église, il prend soin de corriger le contresens qui pourrait venir à l'esprit. Il dit, nous qui paraissons parler d'un lieu élevé, c'est pénétré de crainte que nous sommes à vos pieds. Mais je suis sûr que la plupart de nos évêques éprouvent cette sensation. Je suis sûr de ça aujourd'hui surtout. Enfin, dans le commentaire du psaume 126, il précise encore à l'intention des fidèles, nous vous gardons en effet, comme nous en fait un devoir notre charge, mais nous voulons être gardés avec vous. En un sens, nous sommes bien pour vous des pasteurs, mais sous la houlette d'un même pasteur, le pape, le Christ, nous sommes avec vous des brebis. En un sens, pour vous, de ce lieu, nous sommes des gens qui enseignent. Mais sous la direction de l'unique maître, nous sommes avec vous à l'école et nous sommes vos condisciples. Cela est si vrai qu'Augustin n'est pas libre de son emploi du temps, ni non plus libre de ses mouvements. On en a la preuve, il a essayé d'obtenir des fidèles qui lui laissent du répit pour finir d'écrire des ouvrages de théologie mis en chantier. Ils s'entendent, mais ils ne le laissent pas tranquille. Et quand leur évêque voyage, ils s'inquiètent car c'est un trésor, ils ont peur de se le faire enlever. Si je vous parle de trésor, ce n'est pas pour rien, c'est la condition de préciser en quel sens, car leur évêque est bien pour eux non seulement le dispensateur et le garant de la parole de Dieu, mais aussi il est le garant et la sauvegarde de leur vie tout court, parce qu'il y a des violences avec les ennemis donatistes, une autre secte. Pour ce qui est des revers de la fortune, saint Augustin, qui en tant que moine a fait lui-même vœu de pauvreté, il a une autre raison en tant qu'évêque de ne pas thésauriser. Et il n'y va pas de même mort pour attaquer ceux qui ont de l'argent et qui en dépensent outre mesure. ceux qui ne font pas leur devoir par rapport à la règle. Et dans certains cas extrêmes, saint Augustin se souvient des leçons radicales de saint Ambroise, et son biographe se souvient de l'exemple donné alors par saint Augustin. Lorsque l'argent manquait à l'Église, il annonçait au peuple chrétien le fait en soi. Il n'avait pas de quoi donner aux pauvres, et prenant alors parmi les vases sacrés, il en faisait briser et fondre pour le rachat des captifs, et les secours à distribuer au plus grand nombre possible de gens qui étaient dans le besoin. Ces derniers aperçus de la vie quotidienne à Hippone et de moments particulièrement dramatiques nous montrent un évêque non seulement au milieu des siens, mais très proche d'eux. On se tromperait lourdement si des idées préconçues sur la sainteté devaient figer devant nous ce grand saint Augustin sur sa cathèdre, comme on dit, le siège de l'évêque, là, et de juge, parce que, comme je vous ai dit, il exerçait aussi un pouvoir de juge. Il est immergé, comme on l'a vu, dans son peuple. Il ne peut qu'être engagé dans tous les soucis et les combats de son peuple. De son peuple qui, depuis 100 ans, vit le drame d'une Afrique du Nord divisée en deux églises rivales, la catholique et la donatiste, mais aussi d'une Afrique religieuse traversée par des hérésies comme ce manichéisme qu'il a bien connu de l'intérieur, ce futur évêque, ou encore par l'arianisme dont je vous ai souvent parlé. Saint Augustin est évêque, il n'a rien d'un prélat mondain, pas du tout. Il ne cesse pas de sillonner l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il veut évangéliser. C'est pas du tout pour faire des conférences. Ou plus exactement, celles qu'il est parfois amené à faire sont à la lettre des conférences, c'est-à-dire qu'il discute avec les gens. Augustin assume littéralement le risque de confronter, quoi, directement ses thèses avec celles de l'adversaire. C'était une époque difficile. Et d'ailleurs, les conférences auxquelles il consent sont vraiment publiques et contradictoires. On en a conservé beaucoup. C'est un champion incontesté, saint Augustin. Il attire les foules. Mais encore une fois, cela n'est pas fait pour rassurer les fidèles, hein. Les hérétiques qu'il combat ne sont pas ce qu'on a coutume d'appeler des enfants de cœur, puis les catholiques le savent bien, et eux-mêmes, malheureusement, en bons Africains peut-être, en bons Nord-Africains, sont eux-mêmes prêts parfois à massacrer fort dévotement l'ennemi, nous dit André Mandouze. Ce que nous venons de décrire n'est que l'expression spectaculaire d'un combat permanent qui est celui-là même qu'a mené saint Augustin sur son terrain de prédilection. C'est inséparable de l'action pastorale, c'est-à-dire la théologie, défendre les vérités. Les nombreux combats qu'Augustin a pu mener se sont déroulés surtout les plus beaux à l'intérieur même du catholicisme, précisément pour en approfondir et en sauvegarder tantôt la pratique, tantôt la doctrine. Pour ce qui est de la pratique, c'est le pasteur qu'il convient d'écouter, le pasteur en situation, dans sa basilique et parlant aux fidèles. Il y a quelques 500 sermons qu'on a conservés depuis plus de 1500 ans, c'est merveilleux. Et en fait, près de 800 si on ajoute des commentaires qu'il a prêchés, des psaumes et de saint Jean. Mais il ne faut pas escamoter certains moments forts et même des affrontements avec ce peuple qui l'a élu et qui l'aime. Par exemple, les 3 journées des 2, 3 et 4 mai 395, il y a juste un peu plus de 1600 ans, ou encore jeune prêtre, il a fait appel à toutes les ressources possibles de la Bible, l'Écriture, pour essayer de mettre fin aux excès de boissons ont été l'occasion dans l'enceinte sacrée elle-même, dans l'église, la fête du saint local Léoncius, ou encore l'affaire Pignanus, où en 411, le peuple d'Hippone, où il était évêque, toujours dans l'église même, a menacé de faire un mauvais parti au grand ami d'Augustin, l'évêque Alypius, mon grand ami dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était devenu évêque, soupçonné de vouloir ordonner prêtre à Tagaste le riche Pignanus pour faire bénéficier sa communauté des biens matériels considérables du dit Pignanus. Alors l'ampleur du génie de Saint-Augustin fait renoncer à essayer de donner à son œuvre écrite autre chose qu'un aperçu. Même en laissant de côté la série des lettres et des sermons qui nous restent, ces 93 ouvrages regroupant 252 livres qu'il a révisés comme étant siens quelques 3 ans avant sa mort. Révision qui laisse en fait de côté une dizaine de titres même. C'est tout simplement fantastique. À toutes les époques, la philosophie et la théologie ont été sans cesse stimulées dans les sens les plus divers par un augustinisme, une pensée de Saint-Augustin qui court toujours dans l'Église, qui ne se limite pas aux interprétations bien connues de Luther et de Jansénius. Augustin, disons pour finir, dont la sainteté présente des aspects si contrastés, lui qui a été tellement engagé dans la lutte au milieu des hommes, alors qu'il avait rêvé du silence monastique, lui dont l'action persévérante et très variée ne se comprendra pas sans la trame d'une vie spirituelle d'une exceptionnelle intensité. N'oublions surtout pas qu'il a été gratifié d'extase. Déjà à Milan avant son baptême et surtout à Ostie avec sa mère. Communion étroite avec sa mère, Sainte Monique. Que de fois, avec autant de discrétion que de ferveur, il a laissé percer à travers son œuvre ce sentiment intime de l'ineffable rencontre avec Dieu. Je vous lis une dernière fois à ce sujet. Celui qui a vu Augustin vivre de si près, c'est son biographe et ami Posidius. Il écrit, au Saint-Ligne, « Une fois réglé et mis en ordre les affaires qui le tenaillaient et lui pesaient, il faisait pour ainsi dire retour à lui-même, afin de se consacrer à la vie intérieure et supérieure de l'esprit. Qui décrira jamais la nuit, les nuits de Saint-Augustin, ces nuits, pas d'insomnie, mais il écrivait des sermons, il travaillait la nuit. Cet homme de pensée et d'action était avant tout un mystique, et la rencontre de Saint-Augustin avec les hommes est inséparable de ses rencontres avec Dieu. Il est mort, lui, Saint-Augustin a 75 ans, comme je vous ai dit au début de l'émission, en 430, le 28 août. C'est le 28 août qui est sa fête. Dans les confessions, on trouve ce beau texte. Je t'ai aimé bien tard, ô beauté toujours ancienne, toujours nouvelle, comme je t'ai aimé tardivement. Tu étais à l'intérieur de moi, mais j'étais à l'extérieur et c'est dehors que je te cherchais. Dans mon égarement, je recherchais les choses délicieuses que tu as créées. Tu étais avec moi, mais je n'étais pas avec toi. Les choses terrestres m'éloignaient de toi, elles qui, si elles n'étaient pas en toi, ne seraient pas du tout. Tu as appelé, tu as crié, tu as percé ma surdité. Tu as lui, tu as brillé, et tu as dissipé mon aveuglement. Tu as exhalé ton parfum sur moi. Je l'ai respiré à plein poumon, et maintenant je soupire après toi. Je t'ai goûté. Maintenant j'ai de plus en plus faim et soif. Tu m'as touché, et j'ai recherché ta paix avec ardeur.